Le livre qui accompagne ces épisodes sur l'intelligence artificielle intitulé « Le trou noir philosophique, conséquences de l'usage des IA statistiques sur la connaissance » est disponible sur le site internet du podcast lafourmi.media. Vous y retrouverez tous les livres que je publie sur les différents sujets abordés dans le podcast. Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Avec plus de 70 millions d'euros de lobbying dépensés en 2025, le numérique états-unien est le premier lobby d'Europe. Au-delà de ce lobbying extravagant, cette industrie est à la pointe d'une véritable et très concrète fabrique de l'ignorance, usant de techniques héritées de l'industrie du tabac ou des pesticides. La fourmi dans la coquille, saison 1, le trou noir philosophique, épisode 12, les lobbies de l'intelligence artificielle. C'est peu dire que le mot « éthique » est devenu un des plus prononcés dans les discussions autour des IA. Pour moi, c'est bien là une preuve que les IA, elles posent des problèmes d'éthique. Si on en parle autant, c'est bien qu'il y a un sujet. Si le plus souvent on oublie de définir ce qu'on entend par éthique, on sait que ce que recouvre ce mot est très vaste. Si les problèmes des grandes intelligences artificielles, environnementaux, sociaux, économiques, politiques sont si nombreux et si importants comme on a pu le voir dans tous les épisodes du podcast sur le sujet, comment ça se fait qu'elles arrivent à si bien s'imposer à la population malgré un rejet de plus en plus manifeste, notamment des jeunes générations, mais aussi des scientifiques, des enseignantes et des enseignants, des journalistes, des informaticiennes et informaticiens, des traducteurs et traductrices, les voix, les artistes. On est très nombreux à s'exprimer et même maintenant appeler au boycott, voire à des interdictions, comme l'a fait récemment Amnesty International.
If you'd let me make this point, please.
If you don't... Si vous vous en fichez de la science, c'est ok, parce que l'IA va toucher tout le reste aussi. Quel que soit le chemin que vous choisissez, l'IA deviendra partie intégrante de la manière dont on fait le travail. On vient d'entendre Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, se faire huer lors d'un discours devant les étudiants de l'université d'Arizona où il essaye d'expliquer comment l'intelligence artificielle est censée entrer dans toutes les strates de la société. Son discours illustre à la fois le rejet de la population dont je viens de parler, mais aussi une tentative d'influence, de marketing, de lobbying qui va être notre sujet aujourd'hui. Rien n'est profitable avec l'intelligence artificielle, financièrement parlant, en tout cas pour ce qui concerne les grands modèles généralistes les plus répandus. C'est même raisonnable de douter qu'elle puisse être un jour profitable vu les faibles, très faibles bénéfices comparés aux dépenses gigantesques qui courent toujours. Absolument rien ne semble arrêter les investisseurs, ni même arrêter les politiques qui les accueillent à bras ouverts. En mai 2026, le japonais SoftBank annonce 75 milliards d'euros d'investissement dans les IA en France, dont 45 milliards pour 3 centres de données dans les Hauts-de-France avant 2031. En même temps, le Canadien Brookfield ajoute 10 milliards, les Émirats Arabes Unis prévoient pas moins de 30 à 50 milliards juste pour leur grand campus IA qui réunira plusieurs centres de données près de Paris. Mistral, l'entreprise d'intelligence artificielle de France qui est détenue à 30% par des fonds étrangers, Nvidia, fabricant de puces états-uniens, et BPI France sont de la partie évidemment et investissent des sommes colossales aussi, avec la bénédiction des politiques et du président Emmanuel Macron, bien heureux de faire, je cite, « de la France de très loin le premier pays accueillant des centres de données ». Mais quel est donc l'intérêt de ces investissements à pure perte? aucun client n'a encore signé aucun contrat pour ces centres de données. La seule entrée, par ailleurs sans aucune garantie, de ces devises en France peut-elle justifier les impacts de ces projets? Pense à l'impact environnemental qui est certain. On part des minéraux qui doivent être extraits et transformés, autant que de l'énergie ou de l'eau, et les consommations électriques d'au moins 5 gigawatts prévues à terme en France, alors que la puissance installée dédiée au numérique actuellement est de 1,3 gigawatts, donc presque une multiplication par 5 des consommations. Cette consommation électrique donc va entrer en concurrence avec la nécessaire transition énergétique et la décarbonation de l'industrie et des transports. Les politiques parlent de souveraineté, mais c'est souverain en quoi? Sur quoi? Avec des investissements et des propriétaires qui sont d'ailleurs très majoritairement étrangers. Notons enfin que l'impact sur l'emploi des centres de données est très faible comparé à toutes les autres industries. Mais malgré tout, alors qu'on n'y voit pas grand intérêt, tout le secteur de l'IA est soutenu et les intelligences artificielles sont poussées et imposées et souvent acceptées quasiment partout où on trouve un petit composant électronique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces choix qui ne peuvent paraître que tout à fait irrationnels pour peu que l'on y prête un minimum d'attention? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre la manière dont les intelligences artificielles sont imposées et politiquement acceptées, on peut commencer par regarder dans les plus hautes sphères politiques en Europe. J'ai épluché les rapports publics de la Commission européenne sur le lobbying. Voici ce qu'on y trouve. Alors que le Parlement européen en 2026 compte exactement 720 députés, il y a, tenez-vous bien, plusieurs dizaines de milliers de lobbyistes enregistrés à Bruxelles, travaillant pour exactement 16 894 lobbies différents, à 70% dans le secteur privé, 10% pour les associations. Bien que plusieurs milliers de ces lobbyistes disposent d'un badge d'accès au Parlement à Strasbourg où les lois sont votées par les députés, ils préfèrent en réalité cibler directement la Commission européenne à Bruxelles, là où se conçoit et s'écrit la loi européenne. Ils œuvrent pour le compte donc de milliers d'entreprises et on retrouve majoritairement les secteurs de l'énergie et du pétrole, de la chimie, du tabac et du numérique. En réalité, c'est ce dernier secteur, le numérique, qui dépense le plus en lobbying en Europe et il est bien devant tous les autres, et c'est ce que j'ai analysé. Avant de plonger dans cet univers à la puissance démesurée, je vous invite à garder en tête que les valeurs dont je parle ici, les valeurs que j'ai retenues, sont des valeurs qui sont issues des données déclarées et officielles et qui ne concernent que l'Europe. Ça n'inclut pas les dépenses de lobbying au niveau des États qui composent l'Europe. En bref, les valeurs que je vais donner là sont des valeurs à minima. C'est les valeurs les plus faibles. On sait que les dépenses réelles en lobbying sont bien supérieures à ce que je vais vous dire là. Le secteur du numérique a donc dépensé 70 millions d'euros minimum en 2025 en Europe, dont une immense partie dépensé directement par seulement quelques grandes multinationales du secteur, c'est facile à deviner, les entreprises qui ont dépensé plus de 5 millions d'euros en lobbying numérique sont Meta, Amazon, Apple, Microsoft et Google, les GAFAM. Les budgets de lobbying de toutes ces entreprises ont pour la plupart largement augmenté, voire explosé comparativement à 2021, c'est-à-dire avant la sortie de ChatGPT. Par exemple, Amazon a triplé ses dépenses entre 2021 et 2025 pour atteindre 10 millions d'euros annuels l'année dernière. Dans les entreprises qui dépensent un tout petit peu moins, c'est-à-dire entre 2 et 5 millions d'euros, on retrouve Qualcomm, qui est un concepteur de semi-conducteurs, Samsung Electronics, Siemens, qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, Digital Europe, qui est l'association commerciale du numérique en Europe, TikTok et Cisco, le concepteur de matériel électronique. Alors, la présence de TikTok dans la liste, elle n'est pas surprenante, puisque sa filiale états-unienne est contrôlée par les géants du numérique depuis 2025. Évidemment, dans ces lobbies, on retrouve aussi OpenAI, Nvidia, Anthropic et aussi Cloudflare. Tout cela dépense entre 300 000 et 500, 600 000 euros par an. Ça fait qu'au final, le secteur du numérique, avec plus de 70 millions d'euros de dépenses par an, est devant le secteur de l'énergie, qui lui dépense entre 45 et 60 millions, suivant ce qu'on inclut dedans. Ce secteur-là est lui-même bien devant la finance, les banques et les assurances, qui dépensent presque 40 millions, la chimie et le plastique, qui dépensent 32 millions, la pharmacie, la santé, qui dépensent 22 millions, l'automobile, c'est 11 millions, le secteur du spatial, c'est 10 millions, et il y a toujours les lobbies du tabac. Oui, en 2026, ils sont toujours là. Ils dépensent 10 millions d'euros par an. Mais le numérique dépense donc 7 fois plus que l'industrie du tabac. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ces 70 millions dépensés directement par l'industrie du numérique. Parce que un moyen de cacher un petit peu les dépenses aussi, c'est de passer par des cabinets de conseil, de relations publiques, de communication, qui sont aussi extrêmement nombreux à faire du lobbying en Europe. Et ces cabinets, ils comptent quasiment tous des entreprises du numérique qu'on a citées dans leurs clients. Ils travaillent pour Amazon, pour Google, pour Microsoft. Il y a une vingtaine de ces cabinets qui ont dépensé plus de 2 millions d'euros chacun en lobbying en 2025, et le total atteint 75 millions d'euros. Le truc, c'est que c'est pas possible, à partir de ces 75 millions d'euros dépensés par les cabinets de communication, on peut pas savoir quelle est la part à attribuer au secteur du numérique. Mais c'est tout à fait raisonnable de prendre d'un côté les 70 millions d'euros dépensés directement par le numérique, d'ajouter un morceau de ce que dépensent ces cabinets de conseil de relations publiques, et on arriverait à un ordre de grandeur de 100 millions d'euros de dépenses par les lobbying du numérique en Europe, largement menés par les GAFAM. Tous indiquent avoir travaillé sur les textes concernant l'intelligence artificielle. Ces millions d'euros, ces 100 millions d'euros, c'est des sommes qui peuvent paraître assez dérisoires finalement au regard des milliards de dollars et d'euros investis dans le seul secteur de l'intelligence artificielle dont j'ai parlé juste avant. Mais il faut quand même garder en tête que là, c'est pas des millions d'euros pour acheter du matériel, non, c'est des millions d'euros qui sont dépensés en lobbying. 100 millions d'euros, c'est la dépense en un an de 100 fois ce que moi je pense gagner dans toute ma vie, à peu près. Là, les lobbies, ils dépensent 100 fois ça. 100 millions d'euros chaque année pour faire du lobbying, pour influencer des commissaires et des députés européens. C'est donc en réalité gigantesque, même si pour eux, c'est l'équivalent d'acheter un pain au chocolat. Il y a plusieurs milliers de rendez-vous qui sont enregistrés dans les bases de données européennes sur le lobbying entre les cabinets européens et les employés des entreprises qui font du lobby. Cet intense lobbying, il montre bien comment les entreprises qui développent les intelligences artificielles, elles s'inscrivent dans un système tout à fait impérialiste, avec seulement quelques plateformes qui se placent au sommet de ce système et concentrent un pouvoir démesuré qui se retrouve aux mains en plus de quelques personnalités qui les possèdent, et de ceux qui les suivent un peu les yeux fermés, dont la plupart défendent une idéologie qu'on peut facilement qualifier de techno-fasciste, même si c'est pas toujours explicite. C'est donc tout à fait légitime de s'interroger sur la nécessité de ces dépenses, quelle est l'utilité de ce lobbying, et puis franchement, si le numérique et les intelligences artificielles étaient intrinsèquement positives pour la société comme on essaie de nous le dire, est-ce qu'il y aurait une quelconque nécessité à faire un intense lobbying comme ça? Ou est-ce que l'intense lobbying dont on parle, c'est rendu nécessaire par tous les aspects néfastes des intelligences artificielles qu'il faut à tout prix tenter de cacher? C'est de ça qu'on va parler. Le lobbying dont je viens de parler, il n'a pas lieu qu'en Europe. Et il ne se résume pas à simplement essayer d'influencer le pouvoir législatif, ce qui en soi est déjà pas mal. Les puissants du secteur de l'intelligence artificielle s'infiltrent jusque dans les comités et les commissions publiques destinées à conseiller le pouvoir exécutif. Exemple, dès 2023, en France, on crée le Comité de l'intelligence artificielle générative, C'est le gouvernement qui crée ça, qui a pour but de conseiller le gouvernement, le pouvoir exécutif, dans ses décisions. Parmi les 13 membres de ce comité, on compte pas moins de 5 membres avec des conflits d'intérêts patents qui travaillent pour Google, Dassault, le fabricant d'armement, Meta, c'est-à-dire Facebook, Mistral et d'autres influenceurs du numérique. Ce comité y compte aussi par exemple parmi ses membres Gilles Babinet, qui est un entrepreneur qui a déclaré que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, est un ennemi de la nation. Je le cite, il a dit ça comme ça. Il a dit ça alors qu'il dirigeait une entreprise qui s'appelle Captain Dash, qui était spécialisée dans les renseignements marketing sur les consommateurs. Pas étonnant qu'il soit contre la CNIL. Et donc ce monsieur siège au comité de l'intelligence artificielle générative et il traite en passant les défenseurs des libertés, je cite toujours, d'archéo-rétrogrades. Mais il siège régulièrement dans toutes sortes de commissions comme celle-ci, dédiées au numérique ou à l'intelligence artificielle. Ce comité, il est complété par 2 ou 3 experts, une représentante syndicaliste de la CFDT, et puis quelques politiciens et politiciennes. C'est un excellent exemple du genre de composition qu'on retrouve dans tous les comités et les commissions, avec donc une majorité de gens avec des graves conflits d'intérêts. On retrouve bien sûr les mêmes déséquilibres dans l'organisation des sommets pour l'IA, notamment organisés et soutenus par l'Elysée, qui sont sponsorisés et financés par des entreprises du numérique, des données et des IA. Des entreprises qui comptent aussi pour une bonne partie des intervenants de ces sommets, ce qu'on peut vérifier dans le programme du sommet LIA avec nous du 12 au 19 juin 2026, c'est-à-dire au moment où j'enregistre cet épisode, qui a lieu à Lille. Notez qu'il y a aussi un contre-sommet de l'IA qui est organisé en même temps, histoire de rééquilibrer un petit peu la balance. Il est important de noter la présence dans les financeurs et les intervenants, les acteurs de l'énergie et l'électricité aussi, Total Energy, EDF, RTE, le gestionnaire public du transport d'électricité en France. Comme par hasard, ils financent aussi ces sommets sur l'IA. Ces sommets sont en fait une grande opération de communication, une action de lobbying autour de l'inévitable arrivée de l'IA, entre gros guillemets. Cette infiltration, elle a lieu aussi dans le milieu de la recherche, où les conférences académiques sont massivement financées et infiltrées par les entreprises états-uniennes et chinoises, de la tech notamment. Le lobbying, ça ne se limite pas à son sens le plus restreint et à des dépenses à Bruxelles ou des actions au sein des États. C'est un système bien plus vaste qui inclut toute manière d'influencer l'opinion publique autant que la science. Dans le cas du numérique et de l'intelligence artificielle, qui se heurte, comme on l'a vu précédemment et dans les épisodes qui précèdent, à de nombreux problèmes et des effets gravement délétères sur l'habitabilité de la planète, l'économie, la politique, la société et son organisation, les inégalités, etc., etc. Il s'agit justement d'effacer autant que faire se peut tous ces problèmes du débat ou les relativiser et les minimiser autant que possible ou encore détourner l'attention vers d'autres sujets. C'est ce qu'on va appeler la fabrication du doute et de l'ignorance, qui est tout à fait semblable en fait à ce qu'a fait l'industrie du tabac pendant des décennies. Cette pratique est étudiée scientifiquement par l'agnotologie, qui est une discipline située entre la sociologie, la philosophie et l'histoire des sciences. L'agnotologie explore la production de non-savoir autant que de l'ignorance. Elle tente de répondre à la question « Pourquoi ne savons-nous pas ce que nous ne savons pas ?» L'ignorance dans ce cadre, c'est pas une absence de savoir qu'il faudrait combler. L'ignorance, c'est le résultat d'une production de non-savoir. Cette production, elle peut être aussi bien délibérée qu'involontaire. Dans le cas de l'industrie du numérique et des IA, autant que celle du tabac ou des pesticides d'ailleurs, on assiste à de véritables tentatives d'instrumentalisation de la science qui va bien au-delà de la communication et du lobbying classique ou du marketing. Ce sont des méthodes qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez ceux qui contestent l'origine anthropique du réchauffement climatique. Dans le cas spécifique des intelligences artificielles, il s'agira de nier ou ignorer les conséquences environnementales, sociales, économiques de l'hégémonie du monopole radical qui est en train de se mettre en place. Et donc on fait ça à travers diverses approches que je vais vous énumérer rapidement ici avant de les décortiquer ensemble dans un petit manuel de lobbying de l'IA. On pourra commencer par confondre toutes les IA et leur diversité en une seule IA globale et planétaire qu'on appellera presque religieusement l'IA au singulier, comme s'il pouvait n'y en avoir qu'une. Ça permettra de la défendre dans son ensemble, tout d'un bloc, en justifiant les unes par les bénéfices des autres. Ce processus est bien utile dans un système où les IA les plus problématiques, celles qui sont le plus difficilement acceptables, sont aussi les plus grandes, celles qui nécessitent le plus d'investissement, celles qui guident tout le secteur. On inscrira 7 au singulier IA dans la marche inévitable du progrès, comme un avenir inéluctable sur lesquels nous n'avons aucun choix, ni politique, sociétal, ni individuel. Quand bien même, ces IA sont bien le fruit d'un travail et de choix tout à fait humains, et même juste d'une petite poignée d'humains. Troisième point. Et nonobstant toute vérité scientifique, on poussera les gens à percevoir ces systèmes numériques automatiques comme des êtres vivants, voire humanoïdes, en laissant entendre qu'ils sont conçus pour imiter le cerveau et son fonctionnement, en usant du champ sémantique de la psychologie, de la pensée, du raisonnement, de la conscience et des émotions pour décrire les fonctionnements des IA. Et pour que tous ces discours puissent porter leurs fruits, on va évidemment s'éloigner de toute rationalité et propos scientifiques, et c'est là que la fabrique de l'ignorance prend toute son importance. Les entreprises commerciales qui développent et mettent à disposition les IA devront alors ouvrir des secteurs dédiés à la « recherche » entre guillemets, ou bien sponsoriser les études dites « indépendantes », afin d'inonder le monde d'articles et d'études plus ou moins scientifiques ou pseudo-scientifiques et s'appuyer sur leur pouvoir de communication pour les mettre en avant. On pourra par ailleurs, comme l'a fait l'industrie du tabac avant nous, financer la recherche publique, sachant que le simple fait de financer peut orienter les résultats. Il sera de bon ton d'entretenir l'ignorance en mettant en avant des faux mystères, en brouillant la frontière entre véritables champs de recherche à mener et les questions mal posées entre recherche scientifique, questionnement philosophique et exploration pseudo-scientifique. Et on pourra, en s'appuyant sur cette ignorance qu'on fabrique et sur ces mythes, se placer du bon côté de la morale, en n'hésitant pas à dénoncer certains dangers réels ou hypothétiques des IA, mais en gardant sous silence les problèmes les plus graves, afin de se donner une image responsable, tout en continuant la course au développement sans entrave. On pourra appeler à une régulation politique, à ce qu'on nous donne des limites, et on pourra comme ça se décharger de la responsabilité de nos propres actions et des IA que nous sommes en train de créer, un peu comme des gamins qui ont besoin d'une parole adulte pour les raisonner. Par ailleurs, il ne sera pas inutile de faire peur aux gens avec des discours alarmistes sur des hypothétiques dangers à très long terme. Par exemple, en prenant position publiquement sur l'avènement d'une très hypothétique intelligence artificielle générale, une singularité qui pourrait mener l'humanité à sa perte. On détournera comme ça le regard des nombreux enjeux bien plus immédiats et des problèmes à résoudre à court et moyen terme. Et ça aura aussi l'intérêt un petit peu de dépolitiser la question. Enfin, et pour terminer, c'est en se rendant tout à fait indispensable qu'on pourra assurer nos arrières à marche forcée vers un monopole radical, dans le sens donné par le philosophe Ivan Illich. Je vous laisse faire vos recherches, c'est super intéressant. Un monopole radical, donc, des intelligences artificielles dans le numérique et la société tout entière. On s'infiltrera dans les secteurs que les politiques soutiendront quoi qu'il arrive, c'est-à-dire la défense, la santé, l'éducation. On poussera les entreprises à se débarrasser de leurs employés et ainsi perdre leurs compétences pour les remplacer par des IA qui seront donc devenues tout à fait indispensables, peu importe leur efficacité. Et on s'appuiera sur les connaissances accumulées grâce aux réseaux sociaux depuis le début des années 2000 pour générer une dépendance forte aux produits numériques au sein du grand public, tout à fait analogue à la dépendance au tabac. On n'hésitera pas à s'appuyer sur ces réseaux sociaux, sur les médias, sur les moteurs de recherche que nous possédons pour faire la promotion des IA, manipuler l'opinion et imposer leur usage en les introduisant dans toutes les applications sans avoir peur d'être intrusif. Et je vous rappelle que tout ce que je vous raconte là est tout à fait sourcé et mesuré. Vous pouvez accéder aux sources sur le site internet du podcast lafourmi.media et découvrir les agissements incroyables de ces magnifiques entreprises de l'intelligence artificielle. Dans le prochain épisode de La fourmi dans la coquille, nous plongerons dans les techniques de lobbying et de marketing de ces entreprises de l'intelligence artificielle, dans une petite leçon de lobbying qui nous aidera à y voir peut-être un peu plus clair et à décortiquer la manière dont ces entreprises fabriquent de l'ignorance. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie, par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.